5h40, temps universel, 7h à Paris et Johannesburg.
Andréane Mélard.
Bonjour, bienvenue. RFI Matin commence et on sera ce mardi en Afrique du Sud où règne une interrogation. Que va-t-il se passer aujourd'hui, date butoir décrétée par des mouvements anti-immigration pour que les étrangers en situation irrégulière quittent le pays? Des marches sont prévues, une vague xénophobe. Et ce matin, la crainte de possibles violences, on en parle très largement. D'abord dans votre journal, Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Andréane et bonjour à vous qui nous écoutez. On sera effectivement à Durban, cette ville de l'Est du pays, où la manifestation principale est prévue aujourd'hui. Après Moscou en fin de semaine dernière, le président biélorusse était hier à Pékin. Alexandre Loukachenko sur une ligne de crête diplomatique entre son allié russe d'un côté, les pressions de l'Ukraine de l'autre et au milieu les États-Unis avec lesquels les relations se normalisent. La une, ce sont aussi ces nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu et l'accord cadre signé vendredi. Le 9e congrès mondial contre la peine de mort qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et puis coup de tonnerre sur le mondial de football. L'Allemagne ne verra pas les 8e de finale. La Mannschaft éliminée par le Paraguay au tir au but. Le Maroc a lui validé son ticket en battant les Pays-Bas au terme là aussi d'une séance de tir au but irrespirable. Nous sommes le 30 juin et l'ultimatum arrive à son terme en Afrique du Sud. C'est cette date qui a été choisie par les partisans du mouvement anti-immigration pour réclamer le départ des étrangers en situation irrégulière. Point d'orgue de plusieurs semaines de violentes manifestations xénophobes. Des rassemblements sont donc prévus partout dans le pays avec la crainte de débordement. À Durban, où aura lieu la marche principale, des milliers de Malawites étaient rassemblés dans un camp provisoire. Cette nuit, la ville a fermé ce camp et déplacé ses occupants dans le nord du pays. Reportage Valentin Hugues.
Face à l'afflux de nouveaux candidats au départ, la ville a préféré fermer le camp et le transférer au nord du pays, à des centaines de kilomètres de là, pour éviter que les manifestants anti-immigration ne croisent la route de ces ressortissants étrangers. Nous avons rencontré Esté, 10 ans, juste avant qu'elle ne monte dans un grand bus blanc pour quitter la ville avec sa mère.
Je ne sais pas pourquoi ils veulent qu'on parte. J'étais tellement contente d'aller à l'école. Ce qui se passe est grave.
Mais après le soulagement de fuir la violence, vient la peur du lendemain, témoigne Awa.
Je subvenais aux besoins de ma famille, de ma mère. Elle est âgée. Mais maintenant, je rentre chez moi sans rien. Ça veut dire que ma mère aussi va en pâtir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous chasse. On a le même sang. On est tous africains. Pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Et surtout qu'il s'agit de départs précipités et forcés. Alors Messi ne sait pas ce qu'il attend une fois rentré au Malawi.
On n'est pas en sécurité ici. Et je suis malheureuse parce qu'on nous a dit le 30 juin, il faut partir. Donc je verrai ce que je vais faire au Malawi, mais aujourd'hui, pour être honnête, je n'en ai pas la moindre idée.
Depuis le début de cette nouvelle flambée de violences xénophobes, 25 000 personnes ont déjà été rapatriées, annoncent les autorités sud-africaines. Valentin Hugues, Durban, RFI.
Les autorités qui ont aussi annoncé un important dispositif policier pour éviter l'embrasement. Une tournée en forme de numéro d'équilibriste. Le président biélorusse était hier à Pékin. Rencontre avec Xi Jinping à l'issue de laquelle peu voire rien n'a filtré. Quelques jours plus tôt, c'est à Moscou qu'Alexandre Loukachenko s'est rendu, la Russie alliée historique de la Biélorussie, mais qui se retrouve depuis plusieurs mois dans une position diplomatique particulièrement inconfortable. D'un côté, il y a Vladimir Poutine et de l'autre, les déclarations de plus en plus hostiles du président ukrainien Daniel Valo.
Ménager son allié russe sans s'impliquer outre mesure dans le conflit avec l'Ukraine, c'est l'équation pour le moins délicate que doit résoudre le président biélorusse. Or, selon des informations du Wall Street Journal, la Russie accroît la pression sur la Biélorussie pour qu'elle s'engage davantage à ses côtés. sans aller jusqu'à déployer des troupes en Ukraine, mais en autorisant par exemple des attaques de drones russes depuis son territoire ou en menant des opérations hybrides. Parallèlement, Alexandre Loukachenko fait face à des pressions inédites de la part de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky l'ayant menacé de représailles militaires pour le forcer à désactiver des antennes relais servant à l'armée russe. L'équation est d'autant plus compliquée à résoudre qu'un troisième élément est venu s'y ajouter, la position américaine qui a beaucoup évolué avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a en effet levé certaines sanctions sur la Biélorussie en échange de la libération de prisonniers politiques, un processus balbutiant de normalisation avec Washington souhaité par Loukachenko pour ne pas rester dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de Moscou.
Et sur le front du conflit en Ukraine, la Russie affirme avoir détruit plus de 400 drones ukrainiens dans la région de Moscou. Hier, des frappes russes ont tué 9 personnes dans l'est et le sud de l'Ukraine.
Y aura-t-il une réunion cette semaine au Qatar entre États-Unis et Iran ?
C'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump, même si l'Iran dément cette information. Téhéran envoie une délégation à Doha, mais pas pour négocier directement avec la partie américaine. Steve Witkoff et Jared Kushner, les émissaires américains, sont eux aussi attendus dans la capitale qatarienne cette semaine. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses opérations au Liban. L'agence libanaise d'information rapporte une frappe dans le sud du pays. Le président a lui réaffirmé sa détermination à étendre l'autorité de l'État jusqu'à la frontière avec Israël. Joseph Aoun recevait hier le responsable du CENTCOM, le commandement américain pour le Moyen-Orient, pour évoquer l'application de l'accord cadre signé avec Israël vendredi dernier. Un accord et un cessez-le-feu fragile donc, même si dans le sud du Liban, la vie reprend petit à petit. À Tyr, Libanais et Libanaises tentent de reconstruire ce qui peut l'être, déblayer les décombres et relancer l'économie. Reportage Amélie David.
Dans son magasin de pêche, Elias Mazaoui retrouve progressivement des clients, mais son chiffre d'affaires n'atteint à peine qu'une centaine d'euros par jour.
La situation s'est améliorée, il y a un peu plus de clients. Avant, il n'y avait absolument personne, la ville était complètement vide. Bien sûr, la situation reste difficile, mais on espère que l'activité reprendra petit à petit.
À quelques mètres de là, au port, Hassan Achour, capitaine du Lady of the Sea, prépare son bateau pour accueillir des passagers.
La vie est vraiment redevenue agréable, elle est redevenue comme elle l'était auparavant. En revanche, nous n'avons toujours pas retrouvé notre activité. Pour l'instant, nous recevons encore très peu d'appels, mais nous gardons l'espoir que les Libanais de la diaspora reviendront passer leurs vacances à Tyr.
Près d'un immeuble bombardé dans le centre-ville, Imad Samra vient tout juste de réparer et rouvrir son magasin, il décrit.
Il reste encore certaines dépenses que nous avons reportées, comme la façade vitrée. Le réfrigérateur a aussi été endommagé. On a pu le réparer un peu. En tout, on a déjà dépensé environ $700 pour remettre le magasin en état. Mais le plus important, c'est qu'aucune vie n'ait été perdue.
Les habitants reconstruisent leur commerce et tentent de relancer leurs activités. Mais tant que la trêve reste fragile, l'économie de Tyr demeure suspendue aux évolutions du front. Amélie David, Beyrouth, RFI.
Des immeubles détruits, des quartiers presque entièrement rayés de la carte. Le bilan du double séisme au Venezuela s'alourdit. Plus de 1700 morts et toujours des dizaines de milliers de disparus. L'armée américaine annonce que le port de La Guaira dans le nord est désormais opérationnel et peut réceptionner de l'aide humanitaire.
RFI 5h08, en temps universel, régulariser les sans-papiers pour stimuler l'économie. C'est l'une des mesures phares du gouvernement espagnol.
Lancé il y a 2 ans maintenant, ce 30 juin est la date limite pour toutes celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier de ce processus. Il faut avoir résidé 5 mois consécutifs en Espagne. Et être arrivé avant le 31 décembre 2025. Largement critiqué par une partie de la classe politique, cette initiative socialiste, François Musso, est un immense succès selon le gouvernement.
Les chiffres dépassent toutes les espérances du gouvernement de Pedro Sanchez. Selon les informations officielles, on dénombrait à la mi-juin 900 000 personnes ayant fait la demande et sur ces demandes, 360 000 réponses positives. Or, d'après les services de police, au total et au final, cela va concerner 1 300 000 candidats, soit le double de ce qui était prévu. Un succès donc et aussi un énorme défi bureaucratique puisque les autorités ont tout juste 3 mois pour répondre à toutes les candidatures. Deux documents ne semblent pas si faciles à obtenir, le certificat de vulnérabilité et le document envoyé par le pays d'origine attestant que le casier judiciaire de la personne est vierge. Cette régularisation historique est le fruit d'une initiative législative populaire qui avait recueilli 700 000 signatures il y a 2 ans. Une régularisation qui va à contre-courant de ce qui se pratique dans la plupart des autres pays occidentaux, qui suscite le rejet de l'opposition de droite ici, mais qui est applaudie par les syndicats, les organisations non gouvernementales, le patronat et l'Église catholique. François Musso, Madrid RFI.
Il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale. La phrase est signée de Robert Badinter, ancien ministre français de la justice et artisan de l'abolition de la peine de mort en France. Le 9e congrès mondial contre la peine capitale s'ouvre aujourd'hui à Paris sur fond justement de recrudescence des exécutions. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Irak sont les 4 pays qui ont exécuté le plus de condamnés en 2024. Les États-Unis aussi font partie des 47 États qui appliquent encore la peine de mort. Cette peine, Daniel Gwin y a justement échappé. Après avoir passé 30 ans dans les couloirs de la mort en Pennsylvanie, cet Afro-Américain, condamné à tort, a été innocenté il y a 2 ans.
Yeah, I was a victim and a target because of my color, this color of my skin.
J'ai été pris pour cible à cause de ma couleur de peau. J'étais jeune, j'avais 24 ans, je ne connaissais pas la loi et ce système m'a écrasé. J'ai été condamné à mort et placé à l'isolement pendant 28 ans. Je n'ai reçu aucune indemnisation, aucune excuse, même pas un ticket de bus pour rentrer chez moi. Parce que les autorités, le gouvernement, ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés, ou même qu'ils ont fait ça intentionnellement. Car jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment je suis devenu suspect dans cette affaire.
Qu'est-ce que vous voudriez dire à des gens qui soutiennent encore la peine de mort, pour les convaincre ?
Je leur dirais que la peine de mort ne fonctionne pas. Elle n'a pas d'effet dissuasif sur la criminalité. Au contraire, il y a toujours des gens qui commettent des meurtres. Et il existe une manière plus humaine de punir quelqu'un pour un crime qu'il a commis.
Témoignage recueilli au micro RFI de Justine Fontaine.
Et puis, 2 matchs irrespirables pour les 16e de mondial, du mondial de foot cette nuit.
Avec 2 séances de tirs au but, d'abord entre le Maroc et les Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas qualifiés au bout du suspense pour les 8e, ils affronteront le Canada. Scénario autrement plus cruel pour l'Allemagne, éliminée face au Paraguay. C'était un peu plus tôt dans la soirée et c'est sans doute la première grande surprise de ce mondial, Cédric De Oliveira.
Il était difficile d'imaginer un tel scénario avant la Coupe du Monde. L'Allemagne impuissante, l'Allemagne sans imagination, l'Allemagne tombée sur des Paraguayens valeureux, ce qui a suffi à précipiter à l'élimination des joueurs de Julian Nagelsmann.
It's a mouth, sex over, street is black and I'm afraid.
I'm afraid.
There's people roaring and flaying shadows. The cord in my fingers and my troth is burning.
Burning.
I wear my last look with the knife in my pocket. The night of the morning and I knife in my hand. It's stupid to stay girl,
it's stupid to be upside down.
It's stupid to stay girl,
it's stupid to be.
Thank you.
doing the morning noise. Morning. I'm falling in a dream, the world wakes up when I die. Thank you.
cette idée géniale. J'ai laissé carte blanche à Gérard, et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, au début l'idée était intéressante de présenter des jeunes un peu différents, mais alors ça non, alors ça, moi je suis comme vous, hein. C'est beaucoup trop choquant. Non, ça vraiment Gérard, t'as dû m'en parler. Hein.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Thank you.
déplace plus, il est juste pilier rigide dans les cités livides, belle statue, immobile, chahut inaudible sur solide raffut, marque la rue comme un immense fossile, l'être humain de nuit attire l'oustique et déchet, comme le réverbère attire les moustiques l'été, la lumière n'est pas lumière rêvée, plutôt blessée, éclaire les pieds d'humain à la tête haute, à la casquette baissée, si droit qu'ils font effet pilier, même quand ils s'adossent avec une des deux jambes pliées, témoin du quartier, des rires et des douleurs, et comme le réverbère, ils en pincent pour les chaînes et les scooters, bandit à l'allure de bandit, proche des mioches qui grandissent, ballon aux pattes qui sur le réverbère rebondit, celui-ci est complice du tapage du grand bruit, quand il vibre comme un gosse à l'âge qui resplendit, le réverbère c'est l'ancien des villes, le témoin, il a vu chaque couche sur HLM 10 fois repeint, donc le point commun, le vrai c'est l'étroitesse du destin, le monde est vaste mais on représente l'espace restreint, dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère, comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les cités livides où la lumière ne passe plus, dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère, comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les palais livides où la lumière ne passe plus, les gens ne sont pas reconnaissants, pissent sur les réverbères alors que la nuit il lui demande le fluorescent, ne sont point reconnaissants, ignorent l'humain indécent alors que la nuit il lui quémande le stupéfiant, l'être humain et le réverbère sont complices de l'ingratitude, d'où cette attitude, droit et fier par habitude, la rue qu'il surveille de haut les rend droit pour l'altitude, mais la tête penche vers le sol par lassitude. Pour l'être humain et le réverbère, l'univers s'arrête à quelques rues qu'ils connaissent dans l'affinité, de sa banalité à ses pires activités, l'hiver et son acidité, l'été et son aridité, la richesse n'invite pas au voyage, les beaux quartiers leur beauté montrent un horizon tout aussi bétonné, car l'habitude et la routine rend l'humain statue, loin des sables mouvants, plus proche d'une terre battue, le propriétaire terrien fait du ciment son grain, fait de la rue d'à côté sa vie, sa racine, son bien, donc le point commun, le vrai c'est l'étroitesse du destin, le monde est vaste mais on représente l'espace restreint. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère, comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les cités livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère, comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les palais livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère, comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les cités livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère, comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les palais livides où la lumière ne passe plus.